Alors bonsoir tout le monde, merci d'être venu. On reçoit ce soir Ron Rebrard, qui est donc qui vient spécialement de France. On a régulièrement des invités français, donc il faut en profiter. Donc c'est un psychologue, docteur en psychologie, il travaille comme psychothérapeute et il a fait son doctorat sur les phénomènes, sur l'impact psychologique des phénomènes de hantise, donc les maisons hantées. Hein. Et il a écrit un. Ouais, tu corrigeras tout ça. C'est mon interprétation de ce qu'il a. Et puis donc il a tiré un ouvrage de sa thèse et. Ah oui, c'est ça, parce que c'est ton mémoire en fait.
C'est 2005.
C'est son mémoire de ce qu'on appelait chez nous licence et qui maintenant est maîtrise. Et donc sa thèse de doctorat, c'est son livre. Ouais. Et ça, c'est sur ce dont il va nous parler ce soir, donc la psychologie clinique et le paranormal. Et donc le thème de la conférence, je vous le rappelle, c'était donc la folie n'explique pas le paranormal. Je te cède la
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Merci Jean-Michel. Merci pour l'invitation et puis merci à tous d'être venus de si loin. Effectivement, ce soir, je vais vous présenter à la fois, l'idée de départ, c'était de vous présenter mon ouvrage, donc issu de ma thèse, mais ma thèse fait 900 pages, je vais vous la faire en cours. Et je voulais en profiter pour questionner en fait un regard qui est souvent un peu réducteur sur les gens qui vivent des expériences paranormales, où on va leur lancer que ils sont en train de délirer, ça va pas très bien, ce qu'ils ont vécu, ça, c'est pas possible, et du coup on se questionne sur leur santé mentale. Et quand j'avais mis le titre Folie paranormale, effectivement certains lecteurs m'ont dit que le titre était assez ambigu, parce qu'on se demandait si je prenais ce parti-là de tout réduire, le paranormal à la folie. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, c'est pas possible. Hein, ça ne fonctionne pas. Alors, tout d'abord, juste pour vous expliquer un peu le parcours, comme Jean-Michel a essayé de le faire, j'ai commencé, au tout début de mes études de psychologie, en tombant sur un bouquin, Parapsychologie et Psychanalyse, qui lui-même, issu d'une thèse de psychologie avec Didier Anzieux, par Gérard Siamet, le bouquin qui a été récemment réédité sous un autre nom. Et ça m'a interrogé parce que il y avait ces gens qui vivent des expériences paranormales, soit, mais qui sont en demande d'aide, et quelle aide on peut leur apporter. Et ça m'a questionné, mais j'avais pas encore. Ça s'était pas encore animé chez moi, donc je vous décris les étapes. Je me suis retrouvé à l'Université de Montréal en échange, et là-bas c'est assez étrange parce qu'il y avait des cours de psylogie, ce qui est le terme utilisé là-bas, donc de parapsychologie on dirait ici, qui étaient donnés dans un cadre universitaire, et donc les bibliothèques étaient assez fournies, et là j'ai pu découvrir quand même tout un champ. Quand je suis revenu en France, j'ai voulu travailler là-dessus aussi parce que à Montréal, c'était passé quelque chose de bizarre, c'est que j'avais deux collègues féminins en psycho qui me racontaient avoir vécu dans une maison hantée, et dont une c'était en fait son appartement actuel. Donc elle m'expliquait les phénomènes et j'ai pu suivre ça sur quelques semaines. Et ça m'a beaucoup interrogé parce que là, on pouvait pas mettre la distance qu'on met habituellement en disant c'est certaines personnes très particulières qui se mettent à voir ces expériences. Alors là, c'était juste la personne assise à côté de moi. Du coup, j'ai un prof qui m'a soutenu pour que je travaille cette question-là dans un mémoire un peu baroque. Et ce mémoire m'a permis d'entrer en fait en contact avec un service de consultation spécialisé en Allemagne qui depuis maintenant une vingtaine d'années, voire plus, a de façon très formelle 6 psychologues qui travaillent avec donc des milliers de personnes chaque année qui contactent parce qu'elles vivent des expériences paranormales. Ça se passe à Freiburg, à l'IGPP, l'Institut pour les zones frontières de la psychologie et l'hygiène mentale. Je ne vous fais pas en allemand non plus. Et du coup, sur ce modèle-là, j'ai moi-même, dans le cadre, une fois que j'ai eu mon titre, mon diplôme de psycho, j'ai ouvert un service, mais gratuit, bénévole, avec un autre psychologue qui s'appelle Thomas Rabéron. On a fait ça dans une fondation de parapsychologie en France, parce que cette fondation avait ce besoin, ils font pas forcément de publicité pour ça, mais les gens appellent en disant vous avez peut-être une solution pour moi, vous avez sûrement une expertise par rapport à ce que j'ai vécu. Et du coup, on a pu accueillir ces gens-là. Donc c'était une recherche-action, hein, parce qu'on savait pas trop où on mettait les pieds. Et c'est vrai que la thèse, moi, m'a permis à prendre un peu de recul par rapport à toutes ces expériences. Ensuite, on est sorti de la fondation parce qu'on se rendait compte que ça créait un certain biais. Hein, les gens, ils venaient, c'était pas très clair s'ils voulaient se faire tester, s'ils voulaient être écoutés. Donc du coup, on a vraiment essayé de distinguer les choses. Et on a créé un centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, donc CIRCE, avec mon collègue. J'ai continué à travailler cette question en bifurquant un peu autour des adolescents qui ont des pratiques occultes. On sait que c'est assez fréquent. Et donc, je voulais comprendre un peu pourquoi à l'adolescence, il y avait, d'après les statistiques, beaucoup d'intérêt, beaucoup de mise en acte d'un rapport au paranormal. Il s'est retrouvé que j'étais engagée à ce moment-là à temps plein en psychiatrie adulte. Et du coup, j'avais aussi l'autre versant. Alors, enfin, c'est un peu plus que ça, mais j'avais aussi des gens qui déliraient sur le paranormal, qui, dans la psychose, déjà bien, enfin, hospitalisés, j'allais dire bien frappés, mais c'est pas gentil. Et aussi des gens qui osent parfois glisser comme ça pour tester un peu le psy dans les consultations, des petits trucs pour voir comment il réagit, quoi. Et ils voient s'il y a une écoute ou s'il n'y a pas d'écoute, ça se ferme ou ça s'ouvre. Et du coup, j'avais aussi ce que j'ai pas mal travaillé dans ma thèse et dont je vais vous parler, un petit peu ce continuum, hein, de différents types de personnes qui peuvent rapporter ce genre d'expérience. Donc c'est devenu une thèse qui était dirigée par Pascal Le Maléfant et puis donc un bouquin là-dessus. Alors, avant que j'aille plus loin, je vais sonder un petit peu. Est-ce qu'il y a des psys, enfin, très général, dans la salle? Ok. Osez, hein, vous savez, c'est pas honteux. Ok, donc la salle majoritairement ne l'est pas. Donc si vous m'arrêtez, s'il y a des termes que j'emploie, que vous comprenez pas, vaut mieux qu'on arrive à se suivre, parce que je vais essayer de laisser beaucoup de place pour la discussion, donc du coup, il vaudrait mieux que ça fonctionne comme ça. Bon, le livre, j'en ai que deux encore qui me restent. J'ai des bons de commande, mais bon, de toute façon, vous pouvez le trouver s'il faut. Il est basé sur des articles que j'ai quand même publiés au fur et à mesure de ma thèse, donc un moyen pour moi d'avoir des retours critiques et puis de voir comment cette question-là pouvait aussi entrer en dialogue avec beaucoup de débats contemporains. C'est préfacé par un psychanalyste lacanien, je vais me faire taper. Voilà, c'est découpé en quatre parties. Un côté plutôt historique, hein, pour comprendre comment cette question elle traîne depuis un moment et elle interagit avec l'ordre médical, enfin les premiers psychologues et tout ça. Après, je questionne le rapport à la spiritualité, à la religion, avec aussi le mouvement transpersonnel, donc je vous tirerai des éléments de ça. J'ai repris un peu mes travaux par rapport aux adolescents, donc j'ai comparé adolescents et adultes, puis des phénomènes spécifiques aux jeunes, comme les enfants indigos, des trucs comme ça, qui ont des répercussions assez étranges aux marges de la clinique. Et j'ai conclu en essayant de proposer une sorte de modèle teinté encore de psychanalyse lacanienne, mais bon, je ne vais pas vous le faire. Ça c'est autre chose, mais je travaille maintenant plus, c'est vrai que ça date un peu pour moi, enfin deux ans, c'est pas si vieux que ça, mais je travaille maintenant plus sur le côté historique. J'essaie de comprendre par rapport à la France, le rapport entre psychologie et parapsychologie qui s'est mis en place depuis 150 ans. Donc ça, c'est le prochain bouquin que je vais essayer de faire sortir. Et pour celui-là, c'est vrai qu'un antécédent qu'il y avait, c'était celui de mon directeur de thèse qui s'est trouvé avoir travaillé sur la question du spiritisme et de la psychiatrie. Parce qu'on sait que le spiritisme a émergé au milieu du 19e siècle, un peu ça a contaminé le monde entier, et il y a eu une réaction sociale, hein, rationnelle face à ça, et qui est beaucoup passée par le discours psychiatrique. Hein, à essayer de... Bon, ils ont créé des entités, entités cliniques, hein, pour la cause. Bonsoir. Donc ils ont créé des entités cliniques comme délire spirit, psychospirit, et puis aussi des concepts théoriques qui sont d'une application plus générale, comme parler d'automatisme, de dissociation, de double personnalité. Et donc, ça a beaucoup fécondé la psychiatrie dynamique, hein, qu'on appelle dynamique, celle qui va donner lieu aux théories de l'inconscient, du subconscient, du subliminal par la suite. Alors, mais cette attitude de la psychiatrie, de la psychopathologie, en fait, hein, par rapport au spiritisme, c'était finalement un peu précipité. Hein, ça a été pris dans un discours social un peu militant. Et c'est vrai que ça reste un peu comme ça, on reste avec ces idées, et d'ailleurs avec ces diagnostics aussi, parfois, qui sont des diagnostics où on assimile les gens qui fraient dans ces voies-là à des gens fous. Alors, c'est pas la seule explication qu'on va donner. On peut repérer quatre explications habituelles des témoignages de phénomènes paranormaux. Il y aurait tout ce qui est fraude, supercherie, donc là, il faut c'est possible, il faut le démontrer. L'illusion, qui est plus du registre du cognitif, anormal légèrement altéré. La pathologie, donc là, que je vais surtout développer. Et puis, l'autre élément du discours, ce serait qu'il y aurait une vérité ontologique derrière ces témoignages. Et là, effectivement, le débat se crispe. Et moi, je ne suis pas encore dans ce débat-là. Vous allez voir, je vais vraiment en parler, mais je suis un petit peu ailleurs. Moi, je suis parti de ce constat en psychiatrie, on va appeler les expériences psychotiques. Hein, voilà. Moi, j'ai dit ça réputé psychotique ou d'allure psychotique. Vous connaissez bien, hein, c'est l'hallucination, le délire, hein, parce que c'est une forme de catégorisation de vécu qui sortirait du réel, sortirait de la norme, ne correspondrait pas à quelque chose d'existant. Donc on va les qualifier de perception anormale ou de cognition anormale, donc c'est le même registre de l'anormalité. Et on les appelle aussi des symptômes positifs de la psychose, alors positifs au sens où ce sont des productions très apparentes. Il y a des symptômes négatifs qui sont plus d'ordre de repli sur soi, des choses comme ça. Là, c'est une création intellectuelle propre à la maladie. Or, il y a tout un faisceau de recherche depuis, je dirais maintenant, une trentaine d'années qui montre qu'il n'y a pas d'association systématique de ces expériences réputées psychotiques avec une psychose. Hein, donc là, il y a déjà un problème presque de nomenclature. Et l'autre aspect, c'est qu'on va retrouver ces expériences très fréquemment, c'est ce que veut dire prévalence élevée, elles sont très présentes dans la population générale. Population générale, je redéfinis ici, c'est toutes les personnes qui ne sont pas suivies psychiatriquement pour leurs expériences réputées psychotiques. Alors ça ne veut pas dire que c'est les gens sains, c'est les gens normaux, c'est juste ils ne sont pas suivis par rapport à ça, quoi. Ils peuvent avoir d'autres soucis dans la vie. Mais finalement, donc, on a un constat de la présence de cette expérience, de ces expériences, une présence qui dépasse celle qu'on attribue à la psychose ou à la schizophrénie. La schizophrénie, on dit, c'est 1% de la population, c'est déjà pas mal. Mais là, on est à plutôt 10%. Il y a eu aussi plein de choses comme ça, plein de faisceaux de recherche qui amènent à re-questionner ces expériences psychotiques. Vous allez voir le lien par la suite. Ce sont des recherches psychologiques sur les hallucinations, dans un premier temps. Alors, c'est-à-dire, on a beaucoup... Enfin, l'hallucination, c'est un terme qui est très connoté maladie mentale. Sauf que quand on arrive à se rendre compte que plein de gens vont vivre des hallucinations dans leur vie ou dans des conditions spéciales, après la torture, après un deuil, dans l'isolement, enfin, et qu'on peut même les reproduire en laboratoire, on peut provoquer des hallucinations chez des gens qui n'en ont pas habituellement. Là, on se dit, il y a peut-être aussi un versant psychologique de ce phénomène-là, assez naturel, qui ne demanderait pas d'avoir une psychose pour halluciner. Et puis, il y a beaucoup de problèmes sur la... Oui.
Juste une question. La psychose, c'est défini par quoi, en fait ? Je ne sais pas comment on appelle la psychose.
Ben, la psychose, c'est une maladie mentale grave. Il y a tellement de définitions. En général, on va parler d'un rapport altéré à la réalité. Mais c'est plein de... Oui, ça peut être hallucination et délire. Mais il y a plein d'autres phénomènes...
On répète à ça, alors du coup, comme on dit, c'est pas forcément...
Et oui, c'est...
Du coup,
oui.
Je sais pas à quoi ça...
Ah bah, c'est plus rien, ça explose. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est exactement ce qui se passe actuellement, et je veux vous en parler à la fin, avec les entendeurs de voix. Une notion comme celle de schizophrénie est en train de sortir des classifications internationales. Hein, schizophrénie, c'est quand même le truc que tout le monde connaît. Eh bien, il y a plein de chercheurs, comme Bental notamment, qui disent « ça tient pas la route, votre truc ». Ce truc ne tient pas la route. il y a des problèmes dans la façon dont on va parler d'hallucination ou de délire. Il n'y a pas de définition objective de ce que serait une hallucination pour tout, puisque beaucoup de ces définitions vont parler de choses... Ils vont comparer le vécu à une norme, ils vont dire c'est bizarre, ils vont dire c'est contraire à ce qu'on connaît de la réalité, c'est pas scientifique. Et en fait, ça oblige à insérer dans la définition un repère comme ça, d'une norme, qui en fait, ce repère est vraiment lié à un contexte socioculturel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui parle tout seul dans la rue, vous vous dites Bluetooth. Hein, vous vous dites pas, il est fou. Hein, donc, c'est aussi des choses un peu comme ça. Mais on voit que le gros problème de ces catégories, c'est quand on va les appliquer dans des populations étrangères. Alors étrangères ou immigrants, par exemple, où on va se rendre compte que le diagnostic de schizophrénie est davantage donné aux Afro-Américains et aux Hispaniques aux États-Unis qu'aux autres. Il n'y a pas vraiment de raison, je sais pas, biologique à ça. Hein, c'est vraiment des raisons peut-être culturelles hein, qui sont en train de façonner le diagnostic. On retrouve ça dans les questionnaires, je vais vous montrer comment ça joue. C'est qu'il y a des questionnaires qui détectent les perceptions et croyances inhabituelles. Alors, c'est quoi l'habituel? C'est quoi l'inhabituel? Ou la pensée magique? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la magie? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Hein, est-ce que croire que si je prie, Dieu va exaucer mon vœu, c'est la pensée magique? Ou est-ce que c'est catholique? Enfin, et il y a des items qui sont, on pourrait dire, tautologiques. Parce que dans les questionnaires, pour détecter la psychose, hein, c'est pour des questionnaires pour détecter la psychose, il y a « je crois en la télépathie »,« j'ai vu un fantôme ». Alors, ça voudrait dire que toutes les personnes qui ont vu ou qui croient, ils sont du côté de la psychose. Enfin, en tout cas, ils ont un point de plus pour la psychose. Alors, il y a plein d'autres items, mais ces items-là, ils sont quand même très marqués d'un rapport très normatif au savoir et au vécu. Ça date depuis le début, donc Bleuler, qui est celui qui a amené le terme de schizophrénie, avec pour phrase « les idées étranges sont une indication de psychose ». C'est quoi « étrange » ? Et là, on se rend compte, il y a des recherches qui ont été faites, hein, parce que là, le mot « bizarre » figure encore dans les classifications, et on demandait à différents psychiatres, en voyant un patient, de dire quel type de bizarrerie c'était. Et il n'y a pas de consensus, ils n'arrivent pas à s'entendre. On voit bien que c'est extrêmement relatif. Perception bizarre, finalement, ça devient un terme qui va être utilisé. On pourrait dire que c'est une quasi-hallucination, et croyance bizarre, c'est du quasi-délire. Mais là, on rentre dans un domaine, finalement, si on amène la question du bizarre dans la psychopathologie, on est quasiment bloqué. Ça fait discuter déjà, pas d'accord.
Je ne comprends pas qu'on se place sur cet aspect-là pour parler d'une maladie mentale, en fait. Je ne comprends pas qu'on se place pas sur le côté neurologique.
Ben, c'est-à-dire que les maladies mentales ont des expressions symptomatiques qui sont liées à la verbalisation, au vécu, à l'affectif.
Parce que justement, c'est lié au vécu, que si on se place sur le vécu, on va aller droit dans le mur directement. Alors que si on se place sur des problèmes de différence de taux, de dopamine...
Oui. Sauf que la psychiatrie n'a pas encore été entièrement absorbée dans la neurologie. Il y a encore un hiatus énorme. Il y a quelques pathologies qui ont des correspondances, des corrélations avec des troubles, mais en eux-mêmes, les troubles ne sont pas forcément explicatifs, sont peut-être des corollaires, par exemple, la schizophrénie, oui, va diminuer, les capacités d'attention, on va le retrouver. Mais bon, c'est pas la cause. Oui.
C'est juste que c'est un marqueur qui permet de voir plus que...
Oui, mais il y en a qui espèrent arriver à ça un jour. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et le gène de la schizophrénie, on l'a pas trouvé. Enfin, voilà. Donc, on arrive à quoi ? À une affaire de normes et de prédicats anthropologiques. Alors, je fais ça, c'est un peu grossier. Hein, c'est discuté plus dans les détails. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se plaindre de la façon dont les questionnaires sont appliqués et sont conçus. Du coup, quel est le lien que je vais faire ? C'est que beaucoup d'expériences qu'on va dire paranormales sont très rapidement assimilées à des hallucinations ou des délires parce qu'elles ne correspondent pas effectivement à des normes de savoir. Bonsoir. et du coup comment on arrive à démêler les choses, hein, s'il y a intérêt à démêler. Alors au niveau de, je parle moi d'expérience exceptionnelle et pas d'expérience paranormale ou anomale, transpersonnelle, mystique, non ordinaire, etc. Il y a énormément de termes que vous pourrez trouver. Il n'y en a pas qui fassent vraiment consensus. Sauf qu'effectivement, le terme anomalous experiences fonctionne bien en anglais. Hein. Anomal, ça, c'est en rapport à l'anomalie. Mais en français, ça ne marche pas parce que anomal et anormal sont trop proches et souvent confondus. Or là, on essaie vraiment de distinguer ce qui serait de l'anormal et de l'anomal. Du coup, ce problème étymologique, on ne le règle pas vraiment. Je préférais utiliser quelque chose de différent, mais qui reprend un peu la même idée, qui est l'exception. L'exception à une règle. Au niveau des cartographies, donc repérer qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui ne rentre pas dedans, il y a eu énormément de classifications qui ont été proposées, qui sont aussi influencées socioculturellement. Alors on va vous parler d'expériences de Kundalini, alors c'est tout un bagage culturel qui vient derrière ça, les synchronicités façon Jung, la médiumnité, vous avez tout le cortège des croyances spirites ou autres qui vient avec. Et même l'expérience de mort imminente, ça ne dit pas ce que c'est. La sortie du corps, ça ne dit pas ce que c'est. Les abductions, bon voilà, tout ça, on est vraiment assez. Enfin, c'est une façon de classifier. Hein, c'est des repères qui vont dans le sens des représentations sociales. Hein, les gens comprennent quand on vous parle de ça, mais ce n'est pas utilisable au niveau de la recherche et puis de la pratique. Au niveau du Varieties of Anomalous Experiences, qui est un des plus gros livres sur ces questions, qui a été publié par l'American Psychological Association, qui a été réédité récemment, il y a une classification avec rêves lucides, synesthésie, un chapitre sur les hallucinations, vous voyez, c'est déjà, on ne comprend pas quelle place ça va prendre, souvenirs de vie antérieure, expérience relative au psy, donc le PSI, qui est le terme pour les capacités parapsychologiques, sortie du corps, expérience de mort imminente, enlèvement par l'extraterrestre, guérison et expérience mystique. Mais vous voyez, là, on est dans une classification qui tient plus à des axes de recherche. C'est-à-dire, c'est des domaines de recherche plus ou moins distincts, effectivement, avec des revues de littérature un petit peu distinctes, mais il y a beaucoup de croisements. C'est-à-dire que dans les expériences de mort imminente, généralement, vous avez une phase de décorporation qui correspond à la phase de sortie du corps. Beaucoup de choses comme ça sont vraiment enchevêtrées, c'est pas très pratique. Du coup, je pars des travaux allemands de l'IGPP, donc où je vous avais dit que j'avais fait un stage, qui, eux, ont pris un autre point de vue, pas thématique, mais phénoménologique. Voilà. Et phénoménologique, c'est-à-dire de pas être influencé au maximum par tout ce qui est les dénominations socioculturelles habituelles, et de partir de ce que les gens décrivent de la façon dont ils le vivent. Donc la définition pour laquelle ils optent, c'est des expériences vécues avec une qualité subjective si particulière qui s'écartent si distinctement des modèles explicatifs de ceux qui les vivent qu'elles ne sont pas intégrées dans les schémas cognitifs et émotionnels disponibles. Alors, vous avez le temps de la relire 3-4 fois. Vous voyez, il n'y a pas de paranormal là-dedans. Hein, il y a quoi? Il y a des gens qui vivent quelque chose qui eux, ne s'expliquent pas. Hein. C'est, pour eux, ça va être quelque chose qui est hors de l'ordinaire, inhabituel. Donc il y a une norme, on pourrait dire. Enfin, et c'est pas une norme, c'est une règle. C'est une règle parce que c'est subjectif, ça ne renvoie pas à une norme objective qu'on essaierait de déterminer à l'extérieur. Donc on reste neutre du point de vue de la vision du monde. On n'est pas, nous, cliniciens, chercheurs, obligés de définir c'est quoi le réel. On évite l'amalgame avec un trouble psychique et on suggère aucun diagnostic. Là, c'est pas connoté. Hein, c'est pas connoté de façon psychopathologique. Ça prend en compte la qualité particulière du vécu parce que souvent, pas toujours, hein, absolument pas toujours, mais ça va avoir un impact important pour les gens, ça peut vraiment transformer leur vie. Ils n'en ont pas 10 milliards, ça leur arrive pas tout le temps, certaines personnes disent que si, mais il y a quand même quelque chose qui se passe qui est une sorte de rupture. Et en soi-même, ça ne répond pas à la question de la factualité. Ça ne dit pas. Si c'est paranormal ou si c'est normal ou comment on devrait l'interpréter. Est-ce que c'est divin ou quoi que ce soit. Donc on essaie d'aller vers quelque chose de plus neutre et aussi de plus en amont. C'est-à-dire avant qu'on ait besoin d'attribuer, d'interpréter l'expérience. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est un terme qui permet de travailler avec ces gens-là. Hein, dans un dispositif thérapeutique où nous, on n'est pas là en train de dire ce qu'ils ont vécu, comment ils auraient dû le vivre et vers quoi ils doivent aller. Hein, on prend les gens là où ils en sont, et parfois ils sont absolument pas d'accord avec les interprétations paranormales, ils sont dans une hésitation, ils y reviennent, ils ont besoin d'être accompagnés dans cette démarche-là. Et donc du coup, on essaie de les aider sans leur mettre les théories dans la bouche. Le modèle allemand, là c'est un autre chercheur qui a publié beaucoup, il finit sa thèse là-dessus, Wolfgang Pfarr, lui donne une définition qui est plus condensée, hein, plus simple à retenir, c'est une expérience exceptionnelle est une anomalie dans le modèle du réel. Le modèle du réel, c'est quoi? C'est dérivé en fait de théories philosophiques très simples. On se construit le réel, on se construit la réalité, chacun a un modèle. Alors on a des éléments communs, on pense que la Terre tourne, enfin pas tout le monde, mais enfin, voilà, il y a des choses qu'on a en commun, mais il y a des choses, ben, on verra que d'une personne à l'autre, il y aura des petites différences. Mais ce que fait l'expérience exceptionnelle, c'est être une anomalie là-dedans. C'est, dans notre modèle, ça ne rentre pas. Alors comment se découpe le modèle du réel? C'est toujours très phénoménologique, hein. C'est, il y a tout ce qui est phénomène interne et qui est en fait le modèle de soi. Comment on se représente à la fois tout ce qui se passe dans notre esprit, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps qui n'est pas accessible de l'extérieur. Ça, c'est le modèle de soi. C'est une façon de découper le monde. Et tout ce qui est extérieur, c'est le modèle du monde, justement. Tout ça, c'est deux composants du modèle du réel. Vous comprenez? Modèle du réel, deux composants. L'intérieur et l'extérieur. Donc, dans l'extérieur, il y a aussi tout ce qui est extérieur au corps, par exemple des stigmates ou des modifications corporelles, qui sont quand même visibles de l'extérieur, enfin, en interaction avec l'extérieur. Et donc, il découpe ça, c'est une classification complète des expériences exceptionnelles. Hein, ça change des trucs d'avant, parce que là, vous mettez énormément de phénomènes, je vais vous montrer un petit peu après. Et là, il a deux autres catégories. Alors, cette catégorie-là, c'est tout ce qui est dissociation psychophysique, c'est-à-dire tout ce qui est des représentations de comment le corps doit fonctionner, et là, ça bug. Hein, par exemple, une sortie du corps, ben oui, c'est pas anormal que j'ai une perception de mon environnement à partir d'un point qui n'est pas au niveau de mes yeux, vous voyez. Hein, y a une dissociation, des choses qui peuvent se faire automatiquement. Par exemple, je ne contrôle plus ma main. Hein, elle est en train de cliquer là. Voilà. Ça, c'est tout ce qui peut arriver dans la dissociation, ça regroupe pas mal de choses. Et tout ce qui est lié à des coïncidences. Alors ça peut être des coïncidences vraiment isolées. Je vais vous montrer, c'est un profil particulier. Donc ça va être des événements normaux, mais comme ils arrivent de façon qui me sont significatives, me posent problème. Alors par exemple, c'est le monde est petit. Je retrouve mon voisin de palier sur la plage en vacances à 1000 km d'ici. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais coïncidences, ça recoupe aussi, ça se mélange, hein, aussi un peu tout ça. Par exemple, quelqu'un qui va avoir l'impression qu'il a des rêves, qui décrivent des scènes, bon, jusque-là, ça peut être perturbant, mais il n'y a pas forcément une réalité derrière tout ça. Et il peut dire, mais si, il y a des éléments de réalité qui sont venus coïncider, et c'est vrai que parfois, il y a des éléments de réalité qui peuvent coïncider, il faut voir aussi, il y a plein d'autres explications normales, mais les coïncidences sont quelque chose qui viennent poser des questions et puis portent du sens pour la personne. De ce modèle-là, Wolfgang Pfarr dérive, donc vous pouvez trouver ça dans Frontiers in Psychology, des profils de ce qu'il va retrouver au niveau clinique et au niveau de la recherche. Donc on retrouve phénomène interne, externe, dissociation, phénomène de coïncidence. Vous avez là tout ce qui est perception extrasensorielle, télépathie, prémonition, clairvoyance. Présence interne et influence, ça va être les impressions d'être possédé, aussi dans la nuit, quand vous avez des visiteurs nocturnes, des choses comme ça. Non, c'est là, les visiteurs nocturnes, je me trompe. Automatisme et dominité, c'est quand votre corps fait des choses que vous n'avez pas l'impression de contrôler, il y a une division. Antise et apparition, alors c'est très fréquent chez eux, mais ils sont aussi un peu spécialisés là-dedans, donc ils ont beaucoup plus de contacts par rapport à ça. Et les coïncidences significatives, ça représente 6%. Donc là, vous avez un tableau. Alors, Pfarr a aussi un modèle pour des extensions de son modèle pour les expériences mystiques, hein, parce que c'est encore un petit peu différent, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. C'était juste pour vous montrer qu'il y a quand même une recherche qui essaie de penser les choses un peu différemment. Et cette recherche, elle part déjà de choses importantes à repérer, c'est que les croyances et les expériences, c'est pas pareil. On le retrouve au niveau des recherches en psychologie. Il y a des gens qui ont des expériences qui n'y croyaient pas, qui n'y croient toujours pas. Il y a des gens qui n'y croient pas, mais qui ont des expériences aussi dans le sens inverse. Des gens qui y croient, mais qui n'ont rien. Enfin voilà, tous les cas de figure sont possibles, mais les profils des gens qui y croient, qui sont d'ailleurs plus nombreux que les gens qui ont des expériences, ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est clair? Je vous ai bien embrouillé là. Bon, reprenons de façon simple. Plusieurs sondages montrent que 30 à 50% des personnes des sociétés occidentales reconnaissent avoir eu au moins une expérience exceptionnelle dans leur vie. Ce qui fait dire au sociologue et un peu théologien Thomas Gray que le paranormal est normal. Hein, et des chercheurs ont récemment refait les méta-analyses de tous ces questionnaires et ils disent que le paranormal est toujours normal. Sur le plan sociologique, c'est quelque chose d'extrêmement présent, qui n'est pas lié, qui n'est pas rare donc, et qui n'est pas lié à une couche de population particulière, donc les femmes idiotes, des choses comme ça. Voilà. C'est pas ça qui fait que c'est une exception. Hein ? Mince, ça va être enregistré. Excusez-moi, pardon. Bon, et en tout cas, cette présence justifie que les sciences humaines s'intéressent à ces questions. Hein, au niveau de la psychologie, de l'anthropologie, de la sociologie, mais on ne peut pas continuer à faire l'impasse, supposément parce que c'est sulfureux ou quoi que ce soit. Je vais vous donner une autre façon de concevoir un petit peu, de découper, de rentrer un peu là-dedans. C'est encore basé sur Landolt et Wolfgang Farr et dans cet article également, dans Frontiers in Public Health. Mais j'ai bricolé les chiffres, hein. Les chiffres ne sont pas réalistes, hein. C'est un mélange de différents sondages. J'espère qu'il y aura quelque chose qui donnera une image exacte, mais disons que la moitié de la population vit des expériences exceptionnelles au moins une fois dans sa vie. Dans cette moitié-là, il y a une moitié qui n'a pas de souffrance de cette expérience. Soit parce qu'ils avaient un modèle explicatif tout près dans lequel l'expérience s'intègre, soit parce que l'expérience n'était pas suffisamment forte, bouleversante. Donc, pas de souffrance. Peut-être la curiosité, des choses comme ça, mais pas de souffrance. Hein. Moi, je suis un psychologue clinicien. De cette moitié-là, encore, qui reste, il y a des gens qui ne vont pas consulter. Ou alors, s'ils consultent, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un médecin officiel, c'est ailleurs. Dans ceux qui viennent consulter, la moitié ne montre pas de signes cliniques. C'est-à-dire, oui, ils ont vécu quelque chose, ils ont besoin d'être un petit peu accompagnés, quelques entretiens, d'avoir des informations, mais au-delà de ça, pas besoin d'une thérapie ou quoi que ce soit. On leur donne des articles, enfin, bon, ce qu'ils font à l'IGPP. Et puis, sinon, il y a des gens avec des troubles légers. On voit que l'expérience est concomitante de problèmes professionnels, sociaux, financiers, dépression. Des choses qui peuvent se traiter avec un accompagnement thérapeutique, spécifique ou pas spécifique. Et puis, d'autres qui ont des troubles graves, mais ça ne veut pas dire qu'on les jette. On a aussi des moyens de les aider à intégrer l'expérience ou on peut leur dire que leurs traitements médicamenteux qu'ils ont déjà avec un psychiatre ben, peut leur aider à contrôler les expériences. Enfin, voilà, il y a quand même des choses à faire. Mais en gros, quand on parle de la folie, le paranormal égale la folie, on parle de ça, on parle des 6% là. Hein. C'est-à-dire, en gros, un 16e des gens qui vivent des expériences exceptionnelles sont des gens qui ont des troubles mentaux graves associés, enfin détectés par les cliniciens. Ce qui veut dire que, quand je vous disais au début que les psychiatres ont donné une image très pathologique de cette question, c'est aussi parce qu'il y a un biais de sélection. Eux recevaient dans leurs cliniques, dans leurs hôpitaux, surtout les gens très malades. Hein, les gens qui sont peu malades ou pas malades, eh ben, ils courent toujours, on les connaît pas en fait. On est en train de les découvrir. Cette étude-là a été faite sur une population générale, échantillon suisse comparé à un échantillon allemand. C'est la première du genre. Du coup, je crois que je bouffe mon temps à une vitesse folle, non ? Oui. Je parle, moi, d'exception par rapport à une règle. Hein, vous commencez à comprendre le truc. Le paranormal n'est pas le même pour tous. Hein, vous voyez, c'est vraiment une autre position. Quand je suis arrivé à l'IGPP, ils avaient un cas d'une personne qui vivait dans une maison hantée. Aucun problème, pas de souci. Par contre, elle venait parce qu'elle avait une boule de matière vaporeuse qui s'était formée dans sa bouche et qu'elle avait vomi, qui était tombée dans le sol et qui avait disparu. Et là, ça a bouleversé tout ce modèle. Donc, vous voyez, il y a vraiment un autre positionnement. Il y a aussi des choses qui vous sembleront très facilement normales, je prends un exemple tout à l'heure, mais qui, pour la personne, ne le sont pas. Il faut aussi être capable de l'écouter. C'est pour ça que quand je parle d'expérience exceptionnelle, ça ne recoupe pas ce qu'en parapsychologie, on appelle les cas spontanés, c'est-à-dire des cas qui viennent montrer que les phénomènes parapsychologiques existent spontanément, Donc du côté de la preuve, alors ça peut arriver hein, qu'il y ait des cas qui soient bien enquêtés, qu'on ait des doutes sur les explications. Mais là, je vous parle du point de vue de gens qui vivent simplement les choses, et moi, je ne suis pas là pour enquêter. Ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a des interactions très complexes avec la psychopathologie. Vous commencez à voir que ce n'est pas juste folie égale paranormal, paranormal égale folie. Il y a tout un ensemble de cas de figure. Des pathologies peuvent contribuer à des interprétations paranormales, à tendre vers ça. Et puis, des interprétations paranormales peuvent amener vers la folie. Hein. Ça peut créer une sorte de grille explicative où le monde devient complètement étranger et persécutant. Du coup, moi, je me positionne pas dans une positivation à outrance, hein, de type un peu transpersonnel qu'on peut retrouver à l'INRES, parce que ce qu'ils vont faire, eux, c'est de dire « c'est génial de vivre ça, faut que tout le monde en vive, ça change la vie, il n'y a que des bienfaits ». Et là, on arrive dans quelque chose qui me pose problème, parce que c'est vrai qu'il y a des gens que ça aide, qu'il y a des bienfaits, que ça peut mener à des bouleversements dans la vie, positifs et tout ça, mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas une norme, il faut pas se fixer là-dessus, parce que justement ça peut amener à scotomiser la réalité des expériences, notamment, je sais pas si vous connaissez les expériences de mort imminente infernale, donc ces gens qui, dans le couloir de la mort, au lieu de voir un gentil paradis avec des beaux jardins et des papillons, voient l'enfer brûlant avec le diable qui leur met la fourche, enfin, des trucs bien, bien gore, ils ressortent de là et ils n'ont pas envie d'y retourner, ils n'ont pas envie de dire « moi j'ai vécu ça, je suis super heureux ». Et c'est vrai que ces gens-là, c'est quoi ? On pense que c'est 5-10% de ceux qui vivent des expériences de mort imminente, mais en fait, on ne les voit pas passer parce que les dispositifs actuels d'accueil sont tournés vers la valorisation de ces expériences. Et moi, je ne suis pas dans une valorisation, je suis dans une approche plus neutre. Là, c'est très dense, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs paradigmes, on pourrait dire, de la clinique des expériences exceptionnelles. Le discours psychopathologique, le discours parapsychologique, le discours antipsychopathologique, et le nouveau paradigme, donc voilà. Le discours psychopathologique, c'est ce que ça résume un peu tout le début de la conférence. Toute idée ou expérience qui s'écarte de la norme est potentiellement un signe de folie. Hein, ce serait un rapport à la norme, par les questionnaires, choses comme ça. Il n'existe pas de phénomène paranormal authentique. Ça, c'est une position scientifique sceptique. Et les interprétations paranormales de certains vécus ne sont pas appropriées, sauf dans quelques contextes culturels spécifiques, répertoriés. Et donc là, on va faire des sous-catégories pour inclure des trucs où on va admettre qu'ils puissent croire aux djinns chez eux, mais pas chez nous. Discours parapsychologique, les personnes vivant des expériences exceptionnelles ne sont pas toutes folles, stupides ou menteuses, hein, on essaie de décoincer un peu tout ça. Certaines expériences exceptionnelles sont authentiquement paranormales, hein, du côté de la preuve, et ces expériences peuvent même avoir des effets positifs sur la santé mentale. Ça, c'est vrai, ça commence à être bien montré, c'est pas systématique encore une fois, mais c'est vrai. Le discours antipsychopathologique ou qui récupère des éléments du transpersonnel, hein, c'est les expériences exceptionnelles ne sont jamais des signes de psychopathologie, donc c'est de ce côté-là. Elles sont authentiques et porteuses d'une réalité fascinante, donc ça nous fait découvrir l'après-vie, les extraterrestres qui veulent communiquer avec nous, la spiritualité bouddhiste, tout ça. Et ces expériences impliquent des zones ou des fonctions de l'esprit donnant accès à la transcendance. C'est très imbibé de mysticisme, New Age, de choses comme ça, et ça embarque, hein. Vers des systèmes très compliqués de croyances paranormales. Là, moi, où je me positionne, ce serait de dire qu'il y a un aspect transnosographique, le charabia qui veut dire, vous prenez une classification des maladies mentales, hein, ça s'appelle une nosographie, vous pouvez trouver ces expériences-là quasiment partout. Dans le deuil, dans la névrose, dans la psychose, dans les états limites, après la prise de substances, enfin, c'est pas spécifique d'une pathologie en soi, ça arrive pour des raisons très différentes, hein, dans des configurations très variées, même chez les gens finalement normaux, sans pathologie avérée, enfin voilà. Donc là c'est plus général. L'attitude clinique d'indécidabilité, autre charabia qui veut dire que je suis pas là, moi, clinicien, pour authentifier ou pour nier la paranormalité de l'expérience, je suis là pour l'écouter en tant qu'indécidable. Je ne peux pas vraiment savoir quelle était la réalité derrière tout ça. Je n'étais pas là à ce moment-là. Je peux te donner, je peux poser des questions, je peux essayer de voir où en est la personne par rapport à son esprit critique, hein, ses capacités de doute, parce que ça, c'est un élément diagnostique. Mais je ne suis pas là pour dire, moi, je sais ce qu'est la réalité et vous, vous ne savez pas. Les aspects salutaires pour un sujet, ce que je vous disais, ça, c'est assez vrai. Bien accompagné, ou même parfois spontanément, ça peut devenir des arrangements réconfortants. Ça peut aider la personne à régler, via le paranormal, plein d'autres soucis, hein, à se sentir mieux dans son corps. Les gens qui vivent des expériences de sortie du corps, il y en a quand même beaucoup qui disent qu'ils sont bien mieux dans leur corps. Enfin, ils ont une interaction avec leur corps différente. Ça peut être des substituts, donc aussi à des symptômes plus graves. Hein. Vaut mieux parfois avoir ça qu'une dépression sévère. Enfin, c'est une façon de canaliser un petit peu, de focaliser l'attention. Mais tout ce qui est plutôt du côté de la solution, hein, choisie par le paranormal, c'est marqué par la singularité. On ne peut pas faire une règle générale en disant toutes les expériences de mort imminente ne donnent plus peur de la mort et tout ça et tout ça. C'est pas prouvé, ça arrive, mais c'est pas encore une cause à effet. Hein. Est-ce que ça va ? Ouais. Ok. Alors, ce que j'élabore devant vous, c'est la position du clinicien, hein, qui est donc celle de l'indicibilité. Je n'ai pas différentes casquettes, je ne suis pas non plus avec mes appareils sur le terrain, je ne suis pas là quand les gens vivent les phénomènes. Alors, bon. Après, il y a des récits qui sont prenants, hein, très objectifs, on est plusieurs personnes à avoir vu les choses, certes, mais il faut quand même continuer à travailler avec ça. Donc, la neutralité des expériences exceptionnelles sur le plan de la santé mentale. Donc pas d'assimilation à une pathologie avérée, pas d'emblée en tout cas, transnosographisme. Tolérance à l'ambiguïté parce que je ne sais pas exactement moi-même ou s'ils sont dans le délire, dans l'imaginaire, dans le réel, s'ils se jouent de moi ou pas. Enfin voilà, je propose un accompagnement. Après, ils peuvent mentir. Enfin, tous les patients peuvent mentir, c'est pas grave. Et puis j'utilise des critères pour mon diagnostic qui du coup effectivement hein, par rapport à la question qui a été posée sur qu'est-ce qui reste de la psychose si on enlève l'hallucination et le délire, c'est des critères assez subtils que moi je prends du coup dans la psychanalyse parce que, mais c'est aussi basé sur les observations traditionnelles en psychiatrie, des choses qui sont autour de l'expérience, hein, qui sont dans la façon dont la personne se l'approprie, l'intègre, comment c'est venu dans sa vie, quel type de croyance, de certitude inébranlable, par exemple, elle associe, comment elle l'utilise, enfin, énormément de choses que je vais poser comme question tout autour de l'expérience, hein, après que je l'ai écouté, et qui permettent de repérer des éléments pour l'accompagnement clinique, quand c'est nécessaire, mais qui ne sont donc pas « j'ai vu un fantôme » ou « j'ai pas vu un fantôme ». C'est donc au-delà du vécu. Mais cette approche-là, hein, cette clinique des expériences exceptionnelles, elle est différente de la psychologie anomalistique que je vous présentais un petit peu tout à l'heure, donc la psychologie du paranormal comme un objet de recherche, parce que justement on a un positionnement où on n'essaye pas d'imprégner les gens avec la meilleure vérité scientifique disponible. On n'essaye pas qu'ils sortent de chez vous avec l'explication publiée par Chris French ou je sais pas. On veut qu'ils soient mieux. Hein, donc il y a plusieurs façons d'aller mieux. Parfois il vaut mieux croire que son grand-père vient donner des conseils même après sa mort et qu'il ne va pas aller plus loin et qu'il ne va pas les perturber. On peut tolérer finalement qu'il y ait des croyances imbriquées dans des systèmes familiaux ou culturels mais qui permettent à la personne de fonctionner agréablement avec une diminution d'angoisse. Et je vous donne des exemples un petit peu de l'approche. Alors il y en a une qui n'est pas de moi, c'est de Walter von Nukadu, qui est aussi un des psychologues qui travaille en Allemagne. Un homme lui téléphone, il dit entendre une faible voix dans sa cuisine. Je pourrais le prendre pour un fou, mais je n'en fais rien. Il m'explique que la voix se manifeste lorsqu'il met la théière sur la plaque de cuisson. Il y a aussi de la musique, quoique beaucoup moins. Il est agité. Vous faites quoi, là ? Fou, pas fou, c'est quoi cette voix ? Il a réglé le cas par téléphone. Il lui demande « Comment vous entendez ces voix ?»« Faiblement, très faiblement, les voix comme la musique. »« Et quand les entendez-vous »« À chaque fois que je pose la théière sur la plaque. » »« Je reviens à la charge. »« La plaque de cuisson est-elle allumée ou éteinte ?»« Ça joue aucun rôle. On l'entend aussi quand la plaque est débranchée. » Je fais une rapide déduction et je lui donne ce conseil. « Vous sortez de votre appartement, vous regardez autour pour voir si vous trouvez un puissant émetteur d'onde moyenne à proximité. » C'est le cas. Pour moi, cette affaire est élucidée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pu rassurer ses notes, Tom, qui n'était pas fou. Lorsqu'il posait la théière sur la plaque de cuisson, deux plaques de métal entrer en contact, et entre les deux, il y avait toujours la couche d'oxyde de la plaque de cuisson. L'association avec un émetteur d'onde moyenne peut agir comme un récepteur rudimentaire. Ça n'aurait pas fonctionné avec une station à modulation de fréquence, car la modulation d'amplitude est la condition nécessaire. Je précise que Walter von Lückedoux est physicien d'abord, docteur en physique, et docteur en psychologie, donc il a les deux bagages. C'est utile. Les physiciens ou les techniciens de la radio connaissent bien ça, hein, les plaques se chargent, nanana, et ça crée une sorte de haut-parleur précaire. Ils captaient la radio avec sa théière. Une radio primitive. Donc là, oui, oui, voilà, tout à fait. On a des choses comme ça, on peut avoir des choses comme ça, des radios rudimentaires avec des amalgames, des choses comme ça. Tout à fait. Et là, son client a bien collaboré, il a répondu aux questions, donc il a pu donner des éléments, et puis c'était un phénomène que lui, en tant que physicien, connaissait. Donc là, ça va, il a pu avancer vers une explication normale, mais ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit, et puis une méthode, bienveillante, hein, et rigoureuse. Moi, un autre exemple que je voulais vous donner plutôt de ma clinique, c'était une personne qui me racontait, alors je pense que tout le monde dans la salle va repérer, mais durant la nuit, il va entendre un bourdonnement dans ses oreilles, il va ouvrir les yeux, il va sentir qu'il y a comme quelqu'un dans la pièce, il va voir une silhouette, et puis ça va lui chuchoter à l'oreille des choses, et il se sent pas bien par rapport à ça, et donc ça lui pose beaucoup de questions. Il est assez angoissé par rapport à ça. Donc là, je vais un peu vite, et je lui dis, mais vous savez, on connaît bien ça, c'est la paralysie du sommeil. Hein, la paralysie du sommeil, c'est... Voilà, c'est pas lié à une pathologie, ça arrive à plein de gens, surtout aux jeunes, nanana, nanana. Je sors mon speech tiré des bouquins, des articles, et là, il me raccroche au nez, quoi. Vous pouvez pas entendre ça à ce moment-là. Hein, il faut aussi comprendre que de réduire le vécu, c'est aussi passer à côté d'autres questions. Finalement, j'arrive à le rappeler, on remet les choses à plat, je dis que c'est une hypothèse, nanana, parmi un éventail d'autres, et il m'explique que derrière tout ça, il a déjà développé toute une problématique autour de la médiumnité. Vous voyez, il a vraiment l'impression, comme sa grand-mère, qu'il est devenu médium, et ça, c'est un signe de la médiumnité. Et donc, c'est aussi à travailler de ce côté-là. Mais vous voyez, le plaquage d'explications scientifiques n'est pas forcément un outil thérapeutique. Alors, j'en suis où dans mon temps ?
Non, je pense que t'as encore le temps. C'est moins un quart d'heure.
Ok.
Ouais, mais 29h, t'as encore un quart d'heure.
Alors, en quoi ça va jouer finalement au-delà de les gens qui s'intéressent au paranormal ? Il existe, alors vous savez peut-être plus qu'en France où ça commence, un mouvement des entendeurs de voix. Qui connaît pas les entendeurs de voix ?
Moi.
Ok. Donc les entendeurs de voix, ce sont des gens, hein, on ne veut pas dire des patients, ce sont des gens qui entendent des voix, parfois le vivent bien, l'intègrent dans une théorie à eux, souvent teintés de paranormal, et disent que les psychiatres se trompent à leur sujet. Que le fait de ramener toutes les voix à la psychose, comme le faisait le DSM, et le fait un peu moins maintenant, c'était vraiment problématique. Hein, parce que, et dans leur démarche, ils ont été soutenus par des chercheurs, par des praticiens, et ce mouvement s'est vraiment étendu. Il y a aujourd'hui 180 groupes d'entendeurs de voix en Angleterre seulement. Il y a une journée mondiale de l'entente de voix le 14 septembre. Il y a une tonne de publications. Ça intéresse beaucoup les chercheurs parce que comment font ces gens pour vivre bien sans médicaments contre les voix, hein ? Comment et donc on s'est intéressé aux stratégies qu'ils avaient mis en place. Enfin, tout un ensemble de choses. On a vu que c'était vraiment présent surtout chez les jeunes. Il y a des études qui montrent que ça arrive fréquemment chez les jeunes et que c'est transitoire le plus souvent, hein. Le plus souvent, pas tout le temps, hein, mais... Donc là vous avez un enfant qui rapporte des voix, c'est super weird, et au bout d'un an il y en a 80% qui n'en ont plus, vous voyez, donc c'est un moment transitoire. Donc comment on accueille quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui fait penser à la psychose mais qui n'en serait pas forcément? La prévalence des voix est élevée, hein, comme beaucoup d'hallucinations. C'est aussi, les voix, on peut les entendre dans plein de pathologies et de non-pathologies. Et ils ont des arguments qu'ils avancent. Jeanne d'Arc entendait des voix, Socrate entendait des voix, Freud, Jung. Enfin, ça n'empêche pas de bien réussir sa vie, de contribuer à l'humanité. Enfin, bon, Après, il y a des images dont il se sert un petit peu, comme ça, de revendications. Mais ce mouvement-là, malgré tout, a le soutien des pouvoirs publics, hein, qui trouvent là un moyen de donner un contre-pouvoir aux usagers, de leur donner la parole, et qu'ils puissent aussi contribuer scientifiquement aux catégories qui sont censées les décrire. Donc ça prend énormément de proportions. Et au niveau de la recherche, ce qui est intéressant, c'est que on va se focaliser sur l'appraisal, l'interprétation, appropriation de l'expérience, ce que je vous disais aussi pour les expériences paranormales, c'est-à-dire comment les gens font pour intégrer l'expérience, en quoi on peut repérer des variables sur les bonnes ou mauvaises façons d'intégrer l'expérience. Peu importe finalement que l'expérience soit connotée psychopathologique ou pas. Et on se rend compte que les interprétations qui aident le plus, c'est les interprétations paranormales ou spirituelles. Les interprétations, alors il y en a deux types, on pourrait dire, les diaboliques, elles n'aident pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'elles font vraiment perdre le contrôle sur l'expérience, c'est-à-dire c'est un pouvoir tout puissant, il n'y a qu'un curé qui peut s'y opposer, j'ai aucun contrôle là-dessus. Mais de la même façon, les explications par neuromédiateur, c'est dans votre tête, vous ne pouvez rien y faire, elles sont très angoissantes également. Elles ne diminuent pas l'anxiété de ces gens-là. Donc les gens, quand ils arrivent à se dire « Mais en fait, c'est parce que je suis télépathe, parce que je suis médium, je peux en faire quelque chose, il y a une littérature là-dessus, en fait, c'est quelque chose de bien qui m'arrive, je peux positiver l'expérience », eh bien là, il y a une démarche qui leur permet, eux, de se reconstruire avec ces expériences. C'est là où ça recoupe le paranormal, entre autres. Et donc, ce que je vous disais là, c'est la différence. Au départ, on croyait que c'était externalisation et internalisation qui jouait, c'est-à-dire... Si le phénomène est vécu comme étant propre à l'intérieur de l'individu, propre à... Enfin, il pense que c'est une voix dans sa tête que lui produit, on pensait que c'était bien. Et s'il pense que c'est une voix qui vient d'extérieur, d'un esprit ou d'un ange, on pensait que c'était pas bien. En fait, c'est pas ça qui joue. Ce qui joue, c'est personnalisation, impersonnalisation. Est-ce qu'il arrive à renvoyer cette voix à quelque chose avec laquelle il peut interagir, qui lui parle, qui fait sens, ou alors est-ce que c'est quelque chose de complètement étranger à lui ? Là, on voit des différences cliniques, hein, pas des différences en termes scientifiques, mais cliniques. Mais le problème des entendeurs de voix, là, on ne voit pas trop bien, mais c'est qu'ils ont un discours qui a tendance, comme ça, à reculer le plus loin possible la place de la psychopathologie, ce que, du coup, moi, je ne trouve pas très neutre. Je trouve qu'ils sont plutôt en concurrence, hein, avec les psychiatres, avec la psychopatho, plutôt que dans une clinique différentielle. Moi, je suis dans une clinique différentielle, c'est-à-dire... Je dis que la psychopathologie arrive parfois et parfois pas, et je cherche des éléments pour basculer d'un côté ou de l'autre en fonction des cas et des expériences, alors qu'eux, ils auront plutôt tendance à militer pour une interprétation, les voix, c'est pas pathologique, c'est très bien pour la santé et tout ça. Alors un autre modèle belge, hein, je fais une petite fleur à François Mathisson, psychologue, qui a travaillé un peu ces questions aussi au niveau des jeunes qui avaient des pratiques spirites. Et il a développé un modèle qui permet un petit peu de synthétiser tout ce que je vous disais, de dire qu'au départ, il va avoir une sorte de perturbation cognitive. Ça peut être simplement une observation qui est faite, un ressenti, hein, simple, qui n'avait pas sa place, hein, qui fait anomalie. Et par exemple, il va se reproduire fréquemment, ou alors on ne trouve vraiment pas d'explication naturelle à cette expérience, à ce phénomène, et là, il y a une sorte de lutte pour le contrôle cognitif qui se met en place. La lutte pour le contrôle cognitif, c'est est-ce que j'arrive à expliquer ce que j'ai vécu rationnellement, ou est-ce que je suis obligé d'élaborer d'autres hypothèses. À un moment, on voit ces jeunes qui ont régulièrement des séances de table tournante, qui vont avoir des phénomènes qui pourraient être expliqués par l'automatisme, par des choses, mais qu'eux n'ont pas forcément intégré comme ça, et vont se mettre à croire au spiritisme. Et donc là, il va avoir une rupture cognitive. C'est comme ça qu'il appelle ça. Et ces gens sont plus dans leur paradigme et pas encore dans le prochain. Et ils sont dans une période très angoissée. Il parle de Bernard l'ermite parce qu'il change de carapace, le Bernard l'ermite. Et dans les périodes de transition, il est très vulnérable. Et ces jeunes se retrouvent effectivement dans des états quasi psychotiques. Hein. Il va parler de schizotypie, de choses comme ça. Et lui, il dit qu'une des issues possibles, c'est l'élargissement paradigmatique. On va aller vers une théorie qui permet de rétablir un paradigme autour de ce vécu-là, donc de l'intégrer. Mais parfois, effectivement, il faut élargir le paradigme en allant chercher des hypothèses qui n'y étaient pas. Et parfois, il dit, il y a des gens qui reviennent aux deux. Ils restent pas bloquer, mais finalement l'option qu'ils prennent, c'est de maintenir cette lutte pour le contrôle cognitif et par exemple de chercher l'explication rationnelle, de mettre ça de côté, de refouler peut-être, mais de parfois ça peut devenir des sceptiques militants. Enfin voilà, ça arrive. Hein. Mais en tout cas, ce que je trouve dans ce modèle, c'est que c'est intéressant. Quand on arrive ici, quand on arrive finalement au moment chaud de l'expérience exceptionnelle, on ne peut pas dire ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux de revenir à une lutte rationnelle, zététique, sur le doute, ou d'aller vers un élargissement paradigmatique, donc de faire un choix d'adopter une théorie pour mettre un peu de sens à tout ça. Moi, je laisse les gens choisir. Je ne suis pas là pour le faire à leur place. Alors, un autre aspect, c'est un peu, je vais vous le faire en rapide. Une autre façon d'aborder cette question qui a aussi beaucoup alimenté le discours antipsychiatrique, c'était qu'on croyait qu'en psychiatrie, beaucoup de gens étaient enfermés parce qu'ils avaient des expériences paranormales. Et c'est devenu un mythe que j'appelle celui du schizophrène télépathe. En fait, les schizophrènes seraient télépathes, ils ne seraient pas fous. Il y a plein de films qui jouent là-dessus, ou des livres, vous avez sûrement déjà vu ça. Et il y a eu des études là-dessus, fait où on a testé les gens qui étaient hospitalisés sur des protocoles expérimentaux de parapsychologie. Alors parfois c'est marrant, c'est avant électrochoc, après électrochoc, ou on leur donne des doses de je sais pas quoi. Alors il y a eu pas mal d'études, surtout dans les années 40, 50, 60, et les méta-analyses sont conclues négativement. Alors négativement au sens où les psychotiques ou les malades mentaux n'ont pas des résultats meilleurs que les autres personnes normales. Ça ne veut pas dire qu'il y a absence de résultats à chaque fois. Simplement, ce n'est pas des résultats mirobolants, il n'y a pas de démarcation. Et puis, il y a toujours des problèmes de réplication, comme dans beaucoup d'études. Voilà, il y a une sorte de mythe qui quand même nourrit beaucoup l'imaginaire. Hein, ça joue beaucoup pour ces gens-là. Ils sont rabattus sur des hypothèses un peu alambiquées pour essayer de comprendre pourquoi il y avait cette différence entre des gens qui vivaient les expériences et des gens qui avaient des résultats, des performances dans les tâches parapsychologiques expérimentales en laboratoire. Pourquoi il y a une différence des deux? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à reconnaître et à comprendre, c'est que le profil des gens qu'on dit anomalie prone personnalité, de personality, c'est donc les personnalités qui sont enclines à avoir des expériences exceptionnelles, c'est pas la même chose que les gens qui peuvent éventuellement réussir des tests en laboratoire de parapsychologie. Et cette confusion, elle est quand même très présente, puisque les parapsychologues vont souvent dire que tous les gens qui vivent ces expériences-là, c'est quand même la preuve que c'est omniprésent. Or, c'est pas aussi systématique que ça. Et donc, ils ont pour l'instant pas déterminé le bon profil des personnes qui réussiraient les tests. Je vous épargne des aspects un peu techniques. Pour conclure, pour dire donc que l'hallucination et le délire ne sont pas équivalents de la folie, c'est un consensus maintenant chez les chercheurs. À ma thèse, il y avait Franck Laroy, qui est un excellent chercheur sur les hallucinations, qui décrit très bien ça dans ses livres. Et que du coup, on devrait plutôt avoir une position beaucoup plus de suspension de jugement, je dirais presque, de considérer qu'une rupture avec la réalité, que quelqu'un vient nous raconter un truc qui nous semble pas possible, c'est d'abord une anomalie pour lui ou pour nous, avant d'être une folie. C'est-à-dire que le glissement vers la catégorisation un petit peu défensive de dire « mais il est complètement fou, il délire », c'est aussi un conflit de point de vue. Quand quelqu'un dit avoir vécu quelque chose, appeler ça une hallucination ou un délire, c'est un conflit de point de vue. Hein, c'est donc, comment le dire autrement, conflit de point de vue, voilà. Et au prix autrement, la psychose n'exclut pas un fond véridique. Il y a des gens qui délirent pour des causes tout à fait réelles. Je veux dire, il n'y a pas de paranoïaques qui délirent pour que leur femme les trompe, mais leur femme les trompe, quoi. Donc c'est tout à fait. Donc il faut sortir des ordinaires un peu de la représentation sociale de la psychose. Les psychotiques, il n'y a pas de réel chez eux, ils sont à côté de la plaque en permanence, c'est pas vrai. Vivre des expériences exceptionnelles n'est pas équivalent à des performances psy, on ne sait pas quelle est la réalité derrière tout ça. Et donc, pour cette raison, pour le fait que le paranormal tel qu'il est vécu n'est pas explicable par la folie, qui est un petit peu le but de ma conférence, on doit s'y intéresser. On doit s'y intéresser même si on ne croit pas que le paranormal existe, même si on ne croit pas aux psy, PSI, des parapsychologues. On doit, c'est ce que dit Chris French de Londres, Même si le psy, le paranormal, la télépathie, tout ça était prouvé, ça n'empêcherait pas qu'il y ait la psychologie anomalistique, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la plupart des gens, ils croient avoir vécu quelque chose de vraiment paranormal. Or, il y a plein d'autres explications avant qui permettent d'expliquer psychologiquement ou par des effets de l'environnement, par des illusions, la chose. Ou même par la folie, hein. Ça reste une explication qui peut être viable. Mais vous voyez bien, ne pas s'intéresser au paranormal parce qu'on n'y croit pas, c'est pas scientifique comme attitude. Moi, mon approche, c'est celle d'une clinique fondée sur l'anomalie singulière, hein, donc c'est très relativiste, si on pourrait dire, et avec une recherche, hein, les recherches quand même viennent plutôt sur la loi générale. On essaie d'avoir des bassins de population, de tirer des critères de personnalité avec des questionnaires, choses comme ça. Donc, il faut articuler le tout. La clinique, c'est vrai qu'on ne peut que travailler à partir de l'individu qu'on a en face de nous. C'est bien beau d'avoir une expertise sur la paralysie du sommeil, ça ne veut pas dire que ça va s'expliquer à chaque fois et de façon pertinente, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi, la mise en garde que je ferais, ce serait donc d'éviter le discours surpathologisant, trop de folie pour expliquer le paranormal, ou sous-pathologisant, hein, qui fait le jeu de certains groupes New Age, parce que tous les deux, en fait, contribuent à la même chose, c'est le fait d'envoyer les gens ailleurs. Ils ne vont pas voir un psy, ils ne vont pas voir un médecin parce qu'ils vont se dire que le psy, le médecin, va les rejeter, va considérer que ça n'a rien à voir avec eux. Donc ils vont voir les circuits parallèles, les sectes, les choses comme ça. Et ça ne les aide pas vraiment, hein, enfin en général. Hein. Et dans la même façon, un discours qui serait trop réductionniste, qui serait de effectivement maintenir cette assimilation entre folie et paranormal, fait le jeu des sectes et fait le jeu des circuits parallèles, puisque les gens vont automatiquement penser, quand ils vivent ces expériences, qu'ils sont fous. Or, c'est pas toujours le cas. Voilà. Je vous remercie. Voilà.